Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne durant la case.
Au fil des pages, je vous propose aujourd'hui un voyage au cœur des Russies de Dominique Fernandez de l'Académie française. Après plusieurs ouvrages consacrés à la Russie, le dictionnaire amoureux de la Russie, la magie blanche de Saint-Pétersbourg, Place Rouge avec Tolstoï et puis un essai sur Eisenstein, le cinéaste, et tout récemment avec la publication en 2010 de L'âme russe. Dominique Fernandez récidive pour le plus grand plaisir des lecteurs qui suivent sa plume de voyageur, d'interrogateur des arts et de l'histoire quand il ne nous offre pas un roman. Bonjour Dominique Fernandez.
Bonjour.
Alors vous êtes en notre compagnie pour parler aujourd'hui de Russie, un essai qui vient d'être publié en octobre 2010 aux éditions Philippe Ray. Et le titre Russie, c'est une Russie au pluriel. Selon vous, la Russie se décline forcément au pluriel ?
Oui, c'est un pays, c'est le quart du globe, la Russie. Et quand on pense Russie ici, on pense surtout Moscou, Saint-Pétersbourg, mais c'est la Russie d'Europe, c'est tout petit. Moi, je suis en Sibérie, là. Je suis à Vladivostok, donc il n'y a pas une Sibérie. C'est un ensemble de régions, de cultures, d'ethnies. Par exemple, Kazan, c'est les Tatars. Oulan, Oudé, c'est la Bouriatie. On peut pas... Vous voyez, c'est comme... Même, c'est plus grand que les États-Unis. Même les États-Unis, c'est les États-Unis, je veux dire. La Russie, c'est d'ailleurs une fédération, hein, maintenant. Ça s'appelle Fédération russe, je sais pas le titre officiel. C'est un ensemble de régions, de zones, de contrées qui fait qu'on appelle la Russie, mais au fond, ce sont des Russies.
Est-ce que c'est l'immensité ou la démesure qui caractérise le mieux, pour vous, ces Russies qui vous fascinent ?
Ah ben, c'est un pays sans limite. Ça, je l'ai éprouvé en allant dans le Transsibérien. On fait 10 000 km de Moscou à Vladivostok, 10 000 km dans la forêt. Les fleuves ont 3 km de large, la taïga. On peut faire 1 000 km sans rencontrer un homme, une voiture, une bicyclette, une maison. C'est-à-dire que vous avez vraiment la nature démesurée. Encore, j'ai fait Transsibérien, il longe la partie sud de Sibérie. Si on imagine la toundra, c'est la partie gelée, c'est sans fin. Et ça, on le sent physiquement, vous voyez.
Quand on est en présence du paysage et de la
Oui, c'est extraordinaire. Même la Russie d'Europe, parce que la Volga, c'est un fleuve très puissant. Nos fleuves, la Seine, c'est minable à côté. Vous voyez, c'est très joli, mais enfin, c'est des proportions absolument minables. Là-bas, c'est gigantesque. Tout est gigantesque. Mais beau, vous voyez, c'est jamais monotone. C'est très varié. C'est d'une beauté inouïe.
Alors, on parle souvent de l'âme russe ou de la Sainte-Russie. Vous commencez d'ailleurs le livre sur ce distinguo célèbre. Est-ce que vous pouvez décoder, là, un petit peu pour les auditeurs, justement, cette différence ?
Alors, Sainte-Russie, j'aime pas ça parce que ça évoque le côté religieux. Bon, la religion est très forte, l'orthodoxie est forte, mais enfin, c'est pas ça. Tandis qu'âme russe, je trouve que bon, c'est un cliché, très critiqué par certains, mais c'est vrai, il y a une âme russe. Vous ne direz pas l'âme française ou l'âme italienne, jamais. On dira l'âme slave, l'âme russe, parce qu'il y a un élément spirituel qui n'est pas religieux, forcément. Moi, je le sens, moi qui ne suis pas du tout religieux, qui suis mécréant. Quand j'arrive en Russie, je sens une espèce de souffle qui passe, qui fait que toute chose est portée. Enfin, on n'est jamais terre à terre en Russie, vous voyez, comme souvent en Occident. On est dans l'esprit. J'aime beaucoup le mot esprit, au sens profond, spirituel. Enfin, vous voyez, c'est ça l'âme russe. Et il y a un roman de Paul Morand qui s'appelle La Flèche d'Orient, qui est extraordinaire. C'est l'histoire d'un Russe émigré, la première immigration, qui a décidé de couper avec la Russie. Il élève ses enfants dans la religion catholique, en France, rationnellement. Puis il fait un voyage en Roumanie. Par hasard, et il a décidé que la Russie, c'était fini. Vous savez, comme beaucoup d'émigrés. C'est vers 1930, à peu près. Et à Bucarest, il entend des tziganes, des musiciens russes. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui se réveille en lui. Et finalement, il est repris par l'âme russe au point que le livre se termine. Il va dans le delta du Danube, c'est-à-dire la mer Noire, et il s'embarque, il loue une barque pour retourner en URSS. Alors, il déteste l'URSS. C'est pas du tout qu'il se rallie au soviétisme. Il sait d'ailleurs qu'il sera arrêté, qu'il sera... Mais... Il a besoin de retourner dans sa patrie. Et tous les Russes que je connais, et tous les Russes historiques, dès qu'ils avaient quitté la Russie, avaient été repris par une nostalgie de la terre russe. Par Tchaïkovski, qui voyageait souvent à Paris, à Londres, en Italie, n'avait qu'une idée, c'est de rentrer en Russie. Donc il y a une âme russe, il y a quelque chose qui circule en Russie qu'on trouve dans aucun autre pays.
Quelle couleur évoque pour vous la Russie ? On pense au blanc, à la neige, mais vous parlez beaucoup du rouge et de l'or.
Ça, c'est dans les églises, il y a du rouge, il y a de l'or. Alors, non, parce que vous savez, les palais sont peints, les palais de Saint-Pétersbourg sont verts, sont jaunes, sont rouges, sont framboises, sont couleur amande. Dans le néoclassique, le jaune est présent, mais il n'y a pas une couleur spécifique, non. L'hiver, évidemment, c'est blanc et magnifique, ça étincelle, mais c'est un blanc étincelant, hein. C'est pas un blanc mat, c'est un blanc qui vibre.
Vous dites que les Russes ont un amour fou de la beauté, que la beauté est plus importante que la foi elle-même, la beauté qui devient le critère de la vraie religion.
Mais c'est comme la religion, pourquoi ils sont devenus orthodoxes? Parce que le grand prince de l'époque, au XIe siècle, a envoyé des émissaires voir toutes les religions du monde. Donc ils sont allés à Constantinople, et puis à Paris, puis en Allemagne. Et ils ont dit, il y a une belle religion, c'est la religion des Grecs de Constantinople, enfin de la religion donc orthodoxe. Parce que là, ils ont le sens des coupoles, les hymnes. Donc c'est par le goût de la beauté. Et Dostoïevski, bien des siècles après, a écrit « La beauté sauvera le monde ». Mais c'est une beauté qui n'est pas uniquement physique, c'est une beauté spirituelle aussi, c'est les deux.
Les deux sont intimement liés, voilà. Et vous développez aussi dans des chapitres qui sont consacrés au caractère des Russes. Vous parlez aussi que ce sens de la beauté peut toucher tous les Russes.
Oui,
bien sûr. C'est vraiment très partagé.
Quel qu'il soit,
il n'y
a qu'à voir les vieilles maisons de paysans. Ils sont d'une beauté, les maisons de bois dans les petits villages. Toutes les fenêtres ont un petit linteau en dentelle. Même les gens les plus pauvres ont un sens de la beauté.
Alors, est-ce que les Russes sont-ils des pèlerins dans l'âme? Parce que là, on découvre justement dans l'ouvrage, pour ceux qui ne le savent pas, l'histoire des déambulants.
Oui. Et... c'est la Russie, c'est un pays immense. Il y a plusieurs capitales et le Russe marche. C'est un grand marche. Il est grand, il est fort, il marche, il a un bâton. Il y a une tradition du pèlerin. C'est Rasputin, par exemple, avant de s'agréger à la cour de Nicolas II, était un pèlerin errant. Donc ces gens-là vivent d'aumônes, ne possèdent rien que lorsqu'ils ont sur le dos et ils parcourent la Russie. Il y a des moines, mais aussi d'errants. Ça, c'est une tradition. Aujourd'hui, évidemment, avec les voitures, les avions, ça a peut-être disparu, mais enfin, c'était dans la tradition russe.
Les gens ont le souvenir de ça? Vous pensez qu'il reste
même
quelque chose de cet esprit?
Quand Tolstoï, à 82 ans, a quitté son domaine, il voulait partir comme en pèlerin, puis il est mort parce qu'il a attrapé une maladie, mais sinon, il serait parti comme ça, dans la nature, en marchant.
Est-ce que les Russes d'aujourd'hui ont conservé cet accueil, l'accueil aussi du... Autant ils voyagent, autant aussi ils peuvent accueillir l'étranger.
Ah oui, c'est l'hospitalité russe.
Il y a un côté nomade. On parlait des pèlerins, mais il y a aussi une culture...
Non, mais un côté l'hospitalité russe, c'est extraordinaire. Moi, j'ai mon traducteur de russe vit à Saint-Pétersbourg, dans deux pièces, comme tous les Russes. Il a une femme et une fille. Donc, il y a une petite pièce pour le couple, une autre dans la fille. Et quand je viens, il me dit, naturellement, tu loges chez nous. Et loger chez nous, c'est-à-dire qu'il me laisse la plus grande pièce et qu'il se met à trois dans la petite. Alors, naturellement, je refuse parce que je veux l'hôtel. Mais c'est ça, la Russie. Il vous donne tout. Il serait même prêt à immigrer chez des amis pour me donner tout l'appartement. Et ça, tous les Russes que je connais, ça a toujours été comme ça. Il y a des grandes différences. Le mien et le tien, d'ailleurs, Tolstoï, il y a des phrases extraordinaires. Il critique justement le mon, ma femme, mon cheval. Qu'est-ce que c'est mon? Il n'y a rien. Tout appartient à tout le monde. Ça, c'est très français. Mon truc, ça, c'est pas du tout russe.
Il y a un sens où l'individualité est mise en retrait.
Voilà, si vous voulez, c'est ça le mot. L'individu n'a pas du tout la même valeur, n'a pas de valeur en Russie. En France, tout est fondé sur l'individu. En Russie, c'est tellement vaste que l'individu est fondu dans un tout immense qu'il dépasse. Et il a conscience de ça.
Et c'est important de se dépasser.
Voilà,
pour
non,
le
mais y a pas de... L'individualité, c'est vraiment un concept occidental.
Par quoi vous remplaceriez cette absence de culte de l'individualité en Russie? Comment on pourrait l'expliquer?
Mais c'est pas nécessaire.
C'est pas un sens du collectif? C'est quoi, une générosité?
Si le communisme a pris, c'est quand même qu'avant le communisme, il y avait le MIR, c'est-à-dire l'Assemblée des paysans. Il y avait un mode de vie économique collectif. La collectivité était plus importante que l'individu. C'est pour ça, c'est une raison sans doute pourquoi le kolkhoz, tout ça a pris. Parce que le petit lopin de terre individuel, ce n'était pas une notion russe, vous voyez?
Vous avez beaucoup voyagé en Russie, vous y avez été plusieurs fois.
Ah oui, maintenant j'ai beaucoup voyagé partout, pas seulement dans la capitale.
Ouais. Ça représente quoi, plus d'une vingtaine de fois
Ah, j'y vais depuis 93, parce que sous le communisme, j'y allais pas, j'étais une seule fois en 86, mais en 93, j'y vais à peu près deux fois par an. Cette année, je serais allé trois fois, parce que je retourne encore en décembre à Moscou.
Vous avez fait cette expérience de suivre une route ou un train, puisque vous avez participé au train des écrivains du Transsibérien pendant des heures, etc., où les paysages russes défilent devant les yeux. Vous avez de très belles pages là, dans ce livre Russie, justement. Il y a de longs développements sur le paysage russe, sur la beauté, cette absence de pittoresque. Est-ce que c'est apaisant ou est-ce que c'est déprimant, cette monotonie?
Non, c'est exaltant.
Monotonie, pardon.
Notre voyage dans le Transsibérien a duré trois semaines. Donc j'avais emporté une bibliothèque. Je me disais, on va s'ennuyer trois semaines dans le train. Or, en 3 semaines, j'ai lu 30 pages, ce que je fais en 1 heure chaque jour. Vous voyez, pour vous dire qu'on était collé à la vitre, tellement c'est extraordinaire. Et puis, il y avait les arrêts, les gares, les gens, la vie du train, mais c'est extraordinaire. Moi, j'aime la Russie parce qu'il y règne une atmosphère que je trouvais dans aucun autre pays au monde.
À propos du paysage russe, il y a une école de peinture fameuse en Russie sur le paysage sur la fin du 19e siècle. Mais vous dites que le paysage russe, c'est un paysage dans lequel le temps n'existe pas, l'histoire
oui.
n'existe pas.
On peut comparer par exemple les impressionnistes français, et il y a un grand, immense peintre public qui s'appelle Lévitan,
ah oui.
qui n'est pas connu ici. Vous savez qu'il y a le scandale, c'est qu'il n'y a pas au Louvre, il n'y a pas un seul tableau russe. Et les Français, avant Chagall et Malevitch, croient que ça n'existe pas. Bon, Lévitan, il était contemporain de Tchekhov, donc il est né en 1860, pardon. Et il est mort d'ailleurs, comme Tchekhov, vers 1900.
Ils étaient contemporains.
Voilà. Et donc, contemporains des impressionnistes. Les impressionnistes, il y a toujours un petit événement, il y a une barque, il y a des rameurs.
Il y a des hommes.
Qui... Il a peint le plus beau tableau qui s'appelle... C'est une espèce de promontoire sur un lac, il y a une petite chapelle, il n'y a personne. Vous êtes dans l'éternité, le temps immobile, absolument. Ce n'est pas anecdotique, jamais anecdotique. Voilà la différence.
Oui, je vois le tableau oui. auquel vous pensez. C'est deux fleuves qui se rencontrent. Effectivement, il n'y a personne et le ciel est immense.
Le ciel est toujours immense.
Et là, il prend d'un tiers du tableau oui. par ses nuages. Effectivement, c'est un peintre qu'on découvre dans le livre. Vous abordez évidemment la musique, chère à votre cœur, et en particulier Shostakovitch. Il y a des développements tout au long de l'ouvrage sur la musique. Mais il y a tout un chapitre consacré, c'est des thèmes qui reviennent aussi dans cet essai, sur la façon dont les Russes résistent, sur leur façon de se soumettre ou pas au pouvoir, comment ils jouent de ça et quelle est leur liberté première. Alors, on peut peut-être prendre l'exemple de Shostakovitch, si vous voulez bien.
Oui, moi, je trouve que c'est le plus grand compositeur du XXe siècle, qui a été longtemps méprisé en France. On disait qu'il était stalinien, alors qu'il était persécuté par Staline. C'est l'ignorance des Français de la Russie qui continue, est phénoménale, je vois. Moi. Mes amis me disent, pourquoi tu vas en Russie, c'est la dictature, tout ça. Mais c'est ridicule, c'est absolument ridicule. C'est un pays où la culture de la société est bien plus forte qu'ici. Parce que là-bas, la nourriture, le week-end, la voiture, ça compte pas. Ce qui compte, c'est la culture.
L'Europe manquerait de culture, l'Europe, on va dire, plus à l'ouest.
On est dans la consommation, la vulgarité, les choses. Là-bas, enfin, pas tous les Russes, bien sûr, mais ceux qui sont... Enfin voilà, moi j'aime la Russie pour ça. Il y a 80 théâtres à Moscou, toujours plein, mais merveilleux. Il y a 6 opéras. C'est extraordinaire, la vie culturelle. Et en Sibérie, j'ai découvert des villes, je suis allé à l'opéra, je suis allé au ballet,
partout.
Loin
des centres, des grands centres, il y a aussi cette...
C'est la meilleure école de violon du monde. Là. Répine et Vengorov, les deux plus grands violonistes vivants, viennent de l'école de Novosibirsk. Mais on ne sait rien de tout ça. C'est des villes très modernes. Avec une vitalité extraordinaire. C'est une ville de plus d'un million d'habitants. Hein. C'est pas des Novosibirsk, c'est 2 millions d'habitants. C'est pas des petites villes.
Dans ces voyages que vous faites en Russie, qu'est-ce que vous aimez y retrouver? Puisque là, ça fait une vingtaine de fois où vous y allez souvent.
D'abord, les amis, j'y ai. Et puis, la vie culturelle. Moi, je vais aller à Moscou au début décembre. Je vais tous les soirs, je le sais. Parce que tous les soirs, j'aurai le choix entre 2 opéras, 2 ballets. Tous les soirs. À Saint-Pétersbourg, c'est la même chose. Je vais tous les soirs. Moi, j'adore la musique. Surtout la danse. Et la danse, c'est incomparable. Ben, c'est quand même les maîtres absolus de la danse. Bon. Et l'opéra. Mais vous avez le choix. Et puis, c'est pas cher, parce que ça, c'est l'héritage, il faut le dire, du communisme. Il y avait une culture populaire qui était impossible ici. On a fait la Bastille pour un opéra populaire. Les places sont à 180 euros. Voilà, c'est ce fiche du monde. Là-bas, vous allez à l'opéra, c'est le prix d'un cinéma, je veux dire. Donc, tout le monde peut aller au spectacle. Et c'est plein, tout le monde y va. Mais je voudrais qu'on revienne à Shostakovitch. On a dit que c'était le plus grand compositeur, enfin pour moi. Et c'est un homme admirable, parce qu'il n'a pas voulu émigrer, comme Stravinsky, par exemple. Parce qu'il n'était pas du tout stalinien, il a été persécuté, mais il était russe quand même. C'est très facile de dire qu'il fallait émigrer, mais quand vous êtes d'un pays, et profondément attaché au valeur du pays, vous ne pouvez pas aller n'importe où. Donc il est resté en Russie. De temps en temps, il était adulé par le pouvoir, de temps en temps persécuté.
Il était très persécuté.
Il a failli se suicider, son opéra a été interdit. Et en même temps, on le respectait, on ne l'a pas tué, on ne l'a pas déporté, on l'a protégé pendant le siège de Leningrad. Et il a fait une œuvre colossale, extraordinaire, et une œuvre très désespérée, je veux dire. Il y a souvent, qui se traduit sous forme de sarcasme, de dérision, mais c'est un compositeur immense qu'on n'a pas fini encore d'explorer, je veux dire.
En aucun cas, même sous la dictature de Staline, il ne pouvait se désolidariser de la Russie, du sort de la Russie.
C'est ça, cet attachement dont vous parliez au début. Les gens ici, comme ça, de loin, mais Shostakovitch est resté, donc il est stalinien. Mais c'est monstrueux de dire ça. Parce que son opéra, Lady Macbeth de Smensk, qui était un grand succès, Staline est allé le voir un soir, au bout de 2 ans de succès, pour voir ce que c'était. Il n'a rien compris, ça n'a pas eu épouvantable. Il a dicté le lendemain un article à la Pravda, en disant cacophonie bourgeoise, machin, tout ça. Donc l'opéra a été retiré. Tous ses amis ont tourné le dos à Shostakovitch. C'était en 1936, à l'époque presque des purges. Et il dit qu'il dormait avec sa valise de linge de nécessité, parce qu'il s'attendait, à 4 heures du matin, il guettait quand la police vienne l'arrêter et l'expédier en Sibérie. Il a résisté parce qu'il était comme très russe. Puis après, au contraire, pendant la guerre, sa 7e symphonie, dite Leningrad, est devenue l'emblème de la résistance aux nazis.
Le pouvoir a récupéré la force de l'œuvre. Et qu'est-ce que vous préférez dans l'œuvre de Shostakovitch?
Je dirais, il y a des œuvres, si vous voulez, les plus importantes, c'est les symphonies, hein, qui sont admirables. Enfin, la 7e, la 9e, la 1ère, même déjà à 19 ans. Puis il y a l'œuvre intime, qui est l'œuvre de chambre. Hein. Les 15 quatuors sont extraordinaires. La sonate pour alto, le trio, le quintet. Il y a les mélodies juives. Parce qu'en plus, il a défendu les musiciens juifs. Il a écrit un cycle de mélodies sur les thèmes juifs, qui était proscrit, qui est interdit, parce qu'on les persécutait. Donc c'est un homme très courageux, qui a fait vraiment... Moi, j'ai une admiration, mais éperdue pour lui. J'ai lu ses lettres, parce qu'il est traduit. Et on voit que c'est un combat permanent, cet homme.
Vous parliez de ses lettres, même titre que à propos de Tarkovsky, on connaît le cinéaste, mais on ne connaît pas ses écrits.
Oui, et Tarkovsky, d'ailleurs, lui aussi a été persécuté. Il a émigré, finalement, il est venu en Italie, en France. Il est enterré à Paris, d'ailleurs, à cette chaîne des bois. Mais Eisenstein aussi. Eisenstein, tantôt, a été adulé par Staline, pris Staline. Tantôt, ce film interdit, la seconde partie de Vent terrible, est paru 10 ans après sa mort. Ça, c'est ça, les articles russes. Ils ont été sans arrêt en conflit. C'est pas comme Hitler, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Hitler, on ne pouvait être que contre si on avait une conscience. Donc il fallait, si on pouvait, on s'en allait. On ne pouvait pas pactiser, ça n'avait pas de sens. Hitler n'était pas allemand, c'était une espèce de monstre. La Russie, c'est différent, c'est pas que je défends le régime stalinien, c'est pas ça du tout, mais c'était la Russie, je veux dire, la Russie dans ses valeurs profondes.
Est-ce que ces valeurs profondes, culturelles, nationales, ont justement empêché peut-être de tomber dans un totalitarisme universaliste?
Non, mais c'est très différent.
Mais par rapport au nazisme.
Non, la grande différence entre le goulag et le camp de concentration, c'est qu'on envoyait les gens au goulag, c'était affreux, mais ils travaillaient, ils mouraient de froid et de faim, mais ils n'étaient pas exterminés méthodiquement. Il n'y a jamais eu de chambre à gaz. Et la preuve, c'est qu'actuellement, enfin, ils sont peut-être morts maintenant, mais après-guerre, beaucoup de déportés sont restés sur place. Ils s'étaient fait une vie. Ils sont restés côte à côte avec leur ex-gardien.
Leur geôlier.
Et en bonne entente.
Il y a eu des enfants.
Vous ne voyez pas un nazi en bonne entente avec un rescapé des camps. C'est impossible. C'est une haine inexpiable. Là-bas, c'était possible parce qu'il n'y avait pas ce côté froideur scientifique, volonté d'exterminer. Staline ne voulait pas exterminer les gens. Il les envoyait très loin pour qu'ils ne soient plus dans
comme les tsars l'ont fait avant lui.
Voilà, mais oui, ce n'est pas nouveau. Les tsars, depuis 1825... Les tsars envoyés en Sibérie, c'était commun. On ne les envoyait pas en prison, on les envoyait là-bas à 10 000 km et c'était réglé.
Il y a une belle anecdote que vous racontez dans le livre de cette femme qui récite, c'est là que je l'ai lu, oui. Qui récite Pushkin.
Ah oui, une femme déportée.
Une femme déportée. Et les geôliers, du coup, adoucissent les conditions.
Oui, mais c'est à la place justement de la culture. C'est Evgenia Ginzburg qui était une juive déportée dans un wagon plombé comme à l'époque. Pas le droit de lire, pas le droit de se laver, enfin, une horreur. Et pendant un moment, pour alléger ses compagnes, elle leur récite Genegin, le poème sacré de Pushkin. Les soldats arrivent furieux en lui disant « Donne-moi ton livre, c'est interdit, tu sais pas. » Mais je dis « J'ai pas de livre. » Alors prouve-le. Alors elle a récité entièrement Genegin. Ils ont été tellement à la fois ébahis et séduits qu'ils ont permis à ces femmes de descendre, se laver, tout ça. Oui, je ne vois pas ici des gardiens sur le récit du Racine ou du Baudelaire qui soient sensibles, vous voyez, c'est la différence entre les...
Là, c'est qu'il y a vraiment une communion aussi autour de la poésie de ce poète russe.
Voilà, mais qu'on soit gardien, bourreau ou bien une femme écrivain, Il y a une valeur commune, il y a des valeurs communes. C'est ça qui est en Russie.
Qu'est-ce que vous regrettez, Dominique Fernandez, de la perception de la Russie en France, alors qu'on est dans le cadre de l'année
Russie? Alors la perception est tellement négative que moi, je suis horrifié, absolument. Je suis horrifié de la méconnaissance dans le sens négatif. Je dis, quand je vais en Russie, ils me disent, qu'est-ce que tu vas faire à la Tchétchénie? Mais je dis, chaque pays a ses plaies, ses problèmes. Je veux dire, la France, elle a eu la guerre d'Algérie, c'est pareil. C'est pas une raison pour dire que tous les Français sont des brutes. Et quant à Poutine, je pense qu'il n'est pas aimé en Russie, mais il est estimé. Mais je crois que c'est l'homme de la situation. Il faut un homme fort. Vous ne pouvez pas comparer la démocratie naissante comme la peinture en Russie avec une vieille démocratie comme la France. Et l'étendue de la Russie avec un petit pays hexagonal. Donc il faut une poigne. La liberté n'a jamais été pour un souci des Russes. Leur valeur, c'est la convivialité, l'hospitalité, l'aide réciproque. Et ça, ça marche toujours. Et puis la culture, qui est très fédératrice. Parce que la musique, c'est comme les poésies. Ils adorent la musique. Moi, je vais au concert, je vois des jeunes, c'est pas du tout des snobs comme ici. Ils vont parce qu'ils aiment la musique. Et ça, il faut bien dire que ce pays est calomnié en France d'une façon vraiment révoltante. Révoltante. Alors, il faut dire qu'ils aillent voir un petit peu. Qu'ils aillent voir, qu'ils se rendent compte de la vitalité positive de ce pays. C'est un grand pays, une grande force morale, intellectuelle. Moi, j'y vais pour me requinquer, si vous voulez. Quand je suis déprimé par la consommation et la vulgarité, je me dis, là-bas, au moins, il y a des gens qui croient au théâtre, à la musique, à la danse, au cinéma, vous voyez, c'est ça. Qui lisent, pour qui la vie, c'est autre chose que le week-end ou la gastronomie.
Ça, vous le dites tout de suite dans l'ouvrage.
Oui, mais c'est important. Début, bien sûr. Nous, on est tellement contents de nous, on croit qu'on est supérieur, mais pas du tout. Les Russes sont beaucoup plus forts, il y a une force morale, vous voyez.
Morale, l'envie de se dépasser aussi voilà. Par rapport à...
Voilà. Et de mais qui était interimposé par le climat, si vous ne le pouvez pas. Ici, on est un climat tempéré, comme on dit, c'est-à-dire tout est tempéré, bon, ça va, il y a pas... Quand il fait moins 5, on trouve que c'est épouvantable, quand il fait... Plus 25, on trouve ça atroce. Là-bas, ils sont habitués à des écarts de chaleur. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de prendre de la vie ce qu'il y a de meilleur. Vous voyez, c'est de faire rendre à la vie ce qu'il y a de meilleur.
Vous trouvez que l'année France-Russie est mal représentée? Enfin, je veux dire qu'il n'y a pas assez de choses de faites.
Non, l'année France-Russie était très très bien. Il y a eu des grandes expositions russes en France, comme Sainte-Russie au Louvre. Moi, je suis allé à Lyon écouter des opéras de Tchaïkovski au mois d'avril, mai. Remarquable. En ce moment, à la Villette, il y a une magnifique exposition sur la musique. Sous l'époque soviétique. Je vois les rapports de Prokofiev et de Shostakovich avec Lénine et Staline. Passionnant et accompagné de concerts et de films sur l'époque. J'ai vu La Nouvelle Babylone, un film muet sur la Commune de Paris, avec la musique de Shostakovich qui était jouée en orchestre.
Ah oui, pendant le film. Parce que ça, c'est
il a fait formidable. Une musique qu'on faisait jouer ensemble. Là, il y avait le vrai orchestre. Donc ça, c'est très intéressant. Et inversement, je crois que la Comédie Française est allée en Russie, jouer Le Mariage de Figaro. Il y a eu ce train des écrivains, quand même, qui a permis à 15 écrivains. Moi, je connaissais la Russie, mais d'autres ne connaissaient pas du tout. Et puis, il y a eu une exposition, je crois, Picasso, à Moscou. Et puis, pas seulement dans les capitales. Dans toute la France, il y a eu des manifestations. Et dans toute la Russie.
Donc, il n'y a plus qu'à convaincre les gens. Oui, qu'est-ce qu'il faudrait faire partager davantage?
Il y a ça. Il y a cette exposition au musée romantique, exposition de peinture. Il y a eu beaucoup de choses. Mais vous savez, les gens, ils sont... Je trouve que les gens dits de culture ne devraient pas
c'est
avoir
ces œillères. C'est à cela dont
œillères.
Vous pensez, donc, surtout.
Bon, oui, surtout. Ils ne devraient pas se borner avec ces idées toutes faites.
Vous ne croyez pas que c'est plutôt français, ça? C'est valable pour d'autres cultures que la culture russe?
Je ne sais pas assez.
Français, c'est pas
très français. Je crois que le français est encore un but de sa culture. Il croit que c'est la plus belle du monde. Et c'est une très belle culture. Je n'ai pas du tout à diminuer.
Bien
mais
sûr.
La culture russe, pour moi, elle est plus belle, en fait, parce qu'elle véhicule des valeurs plus grandes. Et il y a ce souffle. Je ne sais pas expliquer. Comme je sens dans le paysage, dans les fleuves, dans la forêt, dans les villes, il y a une espèce de grand souffle. Moi, je rentre de Russie ayant confiance en l'humanité.
Merci, Dominique Fernandez.
Merci.